Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir dans le débat du Club des Idées, la nouvelle passion donc des jeunes pour la bourse. On a décidé de s'y intéresser car c'est vrai qu'on pensait que c'était réservé aux plus âgés. Eh bien pas du tout, la bourse façon smartphone se démocratise et les jeunes y sont accros, nous dit-on. Et pour cause, il y a maintenant de nouvelles applications. Ça n'a jamais été aussi simple de jouer au trader. Mais à quel prix et avec quel risque? On va aussi tâcher ce soir de vous donner les bons tuyaux pour investir à bon compte. On en parle ce soir donc avec nos invités. Charles-Henri Dovigny, bonsoir. Vous êtes président de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. On en parle également avec Benoît Grisoni, bonsoir. Vous êtes PDG de Boursorama. Bonsoir. Et avec Maxime Marcon, bonsoir. Vous êtes porte-parole de Meilleurs Placements. Alors, d'abord, Benoît Grisoni, comment expliquer cette nouvelle passion des jeunes pour la bourse? Est-ce que c'est le goût du risque ou est-ce que c'est l'appât du gain?
Ah, probablement.
Vous allez me dire, c'est un peu des deux.
C'est un peu les deux. Et en fait, ce qui s'est passé, je pense surtout, c'est le fait que les jeunes et puis plus globalement les Français se sont rendus compte que leur épargne était à des taux qui devenaient complètement inintéressants, sans risque.
Oui.
Et donc, finalement, un peu par absence de combattants, ils se sont dit, à un moment donné, finalement, on nous raconte qu'il faudrait peut-être quand même investir dans des produits qui sont, entre guillemets, utiles pour l'économie. Ça, c'est aussi le discours, finalement, des pouvoirs publics à travers la loi Pacte, il y a déjà 2-3 ans. Tout ça a créé des conditions pour que les gens se disent depuis l'année dernière, avec aussi l'arrivée de la Française des Jeux, si vous vous rappelez, fin 2019, il y a eu une conjonction finalement de phénomènes. Et c'est vrai qu'il y a d'une part l'appât du gain, parce que finalement, quand j'ai de l'épargne, j'ai quand même envie d'avoir un rendement un peu sympa. Et puis le fait que quelque part, les conditions fiscales, les conditions finalement autour de ces offres-là commençaient à devenir intéressantes, plus après des efforts peut-être aussi de la part de l'écosystème.
C'est vrai que ce n'est pas avec le livret en ce moment qu'on va faire fortune.
Non.
Charles-Henri Dovigny, on dit qu'il y a aussi un effet confinement. Voilà, les gens étaient chez eux, les jeunes notamment étaient chez eux, et ils ont découvert pendant le confinement, le premier confinement il y a un an, au printemps dernier, les attraits de la bourse.
Alors, ils ont vu les attraits de la bourse, surtout parce qu'elle a fortement chuté au moment du premier confinement.
Oui, mais quand ça baisse, ça met des opportunités d'achat.
Eh bien, donc, voilà. Et donc, pour une fois, les Français se sont rendus compte qu'il y avait un moment opportun de placer un peu d'argent en bourse pour pouvoir ensuite gagner. Et d'ailleurs, ils sont tous...
Les chiffres sont intéressants, hein, parce qu'entre février et début avril dernier, pendant le confinement, enfin pas l'ensemble du confinement d'ailleurs, l'autorité des marchés financiers, l'AMF, a comptabilisé 150 000 nouveaux investisseurs en bourse, dont beaucoup de jeunes.
Alors, beaucoup de jeunes, ça s'est beaucoup rajeuni, oui. Mmh. Alors après, entre 18 et 25 ans, grâce au PEA jeune, il y a eu un engouement, mais ensuite, quand vous êtes entre 25 et 45 ans, il y a peu encore de gens qui ont ouvert des comptes et autre chose, parce que là, on est plus dans l'investissement immobilier. En revanche, au-delà de 45 ans, ça a fortement augmenté. Là-dessus, et ça s'est surtout aussi féminisé. C'est pas mal, ça.
Qui sont-ils, ces jeunes boursicoteurs, Maxime Marcon? Et puis, question connexe, est-ce qu'il y a un effet de mode aussi?
Oui, complètement. Je pense qu'il y a eu plusieurs facteurs qui sont entrés en jeu. Il y a le confinement qui a effectivement permis de dégager du temps et donc de la lecture sur ces sujets-là.
C'est un euphémisme, hein, parce qu'on était chez soi 24 heures sur 24, il n'y avait pas grand-chose à faire.
Donc suivre les marchés, lire, se renseigner et une espèce de gamification, vous l'évoquiez tout à l'heure, de... des plateformes boursières ou...
Là, on va en parler de ça, parce que c'est absolument passionnant. Simplement quelques chiffres pour fixer l'enjeu. L'Observatoire de l'épargne estime que 31% des Français se disent prêts à réaliser un investissement risqué en bourse, donc 44% de moins de 35 ans. Il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer autour de l'attrait des jeunes pour la finance et la bourse.
Ouais, alors je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Je ne sais pas s'ils ont le patrimoine adéquat et la gestion de patrimoine adéquate pour faire ça. Mais c'est devenu tellement simple d'acheter une action et tellement fun, entre guillemets, d'avoir des gains, des pouces en l'air, des choses de ce type, que oui, ça a attiré toute
des
cette
pouces
population.
En l'air. Vous nous expliquerez tout à l'heure de quoi il s'agit pour les non-initiés. Benoît Grisoni, on va marquer une pause en 30 secondes. Ouais. Dites-nous si c'est encore possible, par les temps qui courent, de gagner de l'argent en bourse.
Évidemment. Évidemment que c'est possible. Par contre, il faut le faire de manière un peu intelligente, c'est-à-dire en diversifiant ses risques, en achetant des entreprises qu'on connaît si possible. Je pense que c'est très important d'avoir un lien entre l'actionnaire et le consommateur. Il faut comprendre ce qu'on fait, finalement. Il faut s'y intéresser, il faut y consacrer un peu de temps.
Voilà. Et quand après, vous dites un peu de temps, c'est quotidien, bah, c'est hebdomadaire?
Non, quotidien, regarder un petit peu, mais c'est surtout hebdomadaire. Ouais, hebdomadaire, se renseigner, prendre un peu de connaissances économiques et financières. Et si vous faites ça, honnêtement, c'est un super placement. Et après, il faut le faire de manière intelligente, c'est-à-dire programmer.
Alors, on a plein de questions à vous poser. Combien faut investir? Oui. Sur quoi faut investir? Et comment on diversifie son portefeuille? On en parlera avec nos invités dans quelques secondes. 19h27, restez avec nous, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h30, la suite du débat du Club des Idées avec la nouvelle passion donc des jeunes pour la bourse. C'est ce qu'on évoquait juste avant la pause. Les chiffres sont là et montrent qu'il y a une forme de démocratisation, notamment chez les jeunes, de la part des investissements en bourse. Alors comment boursicoter? Si vous en avez l'envie, on va vous donner toutes les clés pour faire ça de façon intelligente. Alors, il y a vraiment quelque chose qui est assez nouveau. On l'évoquait tout à l'heure, on va commencer peut-être avec vous, Maxime Marcon, porte-parole de Meilleur Placement. Vous en parliez, hein. Ce sont ces applications, façon gamer, vous disiez, sont des applications qui facilitent les investissements. C'est vrai que ça ressemble un peu à dans l'ergonomie, hein, à des jeux vidéo. Alors on peut en citer quelques-unes. Il y a eToro, il y a Bug Zero, il y a Robinhood, qui simplifient évidemment au maximum la facilité pour acheter des actions. Un peu, on va dire, comme le PMU, mais version Instagram, pour faire simple.
Oui, c'est ça, c'est un peu... c'est du casino mobile, mais lié à du marché action. Donc, je vais facilement acheter, facilement vendre, facilement avoir des effets de levier.
J'ai été regarder tout à l'heure sur les applications en question. On a essayé de s'inscrire avec mon équipe. Là, c'est super simple. Hein. On fait ça en quelques clics. Et puis après, alors il n'y a pas un risque quand même, parce qu'on se dit, c'est tellement facile qu'il n'y a pas un risque d'addiction.
Si, complètement. Et c'est ce qui, je pense, explique les flux et ces nouveaux actionnaires qui peut-être ne ressentent pas tout à fait le risque derrière et qui voient ça comme un jeu.
Ouais. Oui, Charles-Henri Dovigny, vous êtes président de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Ça joue ça vraiment dans le nouvel essor de la bourse chez les jeunes, la manière dont on peut acheter et vendre des actions, parce qu'avant c'était hyper compliqué. Alors il y a Boursorama évidemment depuis, puis il y a d'autres acteurs, mais il fallait appeler son banquier, il fallait ouvrir un compte, il fallait passer ses ordres, enfin ça prenait la journée.
Ça fait quand même 20 ans que les courtiers en ligne sont présents sur le marché. Donc ça fait quand même plus de 20 ans que c'est assez simple quand même de passer des ordres en bourse par Internet.
Mais là, vous voyez, il y a un côté cool, pas moi qui le dis.
Oui, mais il y a 20 ans aussi, vous nous auriez interrogé il y a 20 ans, il y avait aussi un côté cool d'investir dans les valeurs Internet il y a 20 ans. Mais vous n'étiez pas né, donc...
Vous voyez bien, il y a 20 ans, j'étais né quand même. Mais vous voyez bien que dans tous les secteurs d'activité, les applications et cette utilisation... très intuitive, a quand même révolutionné nos usages. Et c'est pareil pour la bourse, dans ce qui se passe aujourd'hui.
Oui, bien sûr. Mais là, en l'occurrence, quand vous êtes sur eToro ou sur Robinhood, vous n'investissez pas en bourse. Hein. Vous investissez sur des sous-jacents qui est la bourse. Donc,
c'est des sous-jacents?
C'est-à-dire qu'en fait, vous investissez, vous mettez de l'argent de côté et on vous dit, vous allez investir sur... non pas des valeurs, parce que vous n'êtes pas propriétaire, vous n'êtes pas être actionnaire des entreprises. Donc en fait, on va vous dire, finalement, vous allez suivre telle ou telle valeur ou tel indice, et telle chose, mais vous ne serez pas actionnaire de ces entreprises.
Benoît Grisoni, PDG de Boursorama, sur ces applications, là, on ne peut pas acheter d'actions. En fait, acheter du Renault, de la Société Générale.
Ça dépend des acteurs, mais en fait, ce que dit Charles-Henri, c'est qu'en fait, vous avez des produits synthétiques qui permettent de simplifier l'accès quelque part à l'exposition du sous-jacent qui est l'action, sauf que vous n'êtes pas propriétaire de l'action. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas aller à l'Assemblée Générale pour voter, par exemple, vous n'avez pas forcément de dividendes, vous jouez juste le fait que, et ce qui est déjà une partie importante probablement pour les clients qui veulent l'exposition au risque ou à l'avantage positif, c'est vous suivez le cours de la valeur dans le temps. Mais juste peut-être pour revenir à ce que vous disiez, je pense qu'on
peut
arriver...
Mais attendez, pour que chacun comprenne, j'investis quand même de l'argent dans l'affaire.
Oui, c'est vrai.
Donc si je mets 1000 euros et que l'action gagne 10%, je gagne 100 euros quand même. Si ça baisse.
Voire vous pouvez gagner plus, avec un effet de levier qui peut vous mettre en risque. Et là, c'est important quand même que... Alors je ne sais pas, je n'ai pas fait le test que vous avez fait apparemment avec l'équipe. J'espère que vous avez testé Boursorama. Nous, il se trouve qu'on est quand même dans un contexte réglementaire qui ne permet pas non plus de faire n'importe quoi. On ouvre des comptes titres, on ouvre des PEA.
Mais vous avez des frais qui sont plus chers.
Alors, les frais, ça dépend, parce qu'il faut tout prendre en compte. On ne va pas rentrer peut-être dans ce détail-là, mais vous avez des frais de courtage qui sont ceux que vous voyez, mais vous pouvez aussi avoir des frais de financement, c'est-à-dire qu'on va vous prendre de l'argent un tout petit peu tous les jours, que vous verrez peut-être un peu moins. Vous allez avoir des frais quand vous allez voir faire des virements sortants, par exemple, quand vous avez besoin de votre argent. Donc, il faut évidemment regarder ça dans sa globalité. Et après, je pense qu'il faut vraiment distinguer la personne qui, peut-être, c'est votre profil jeune, qui va chercher une exposition sur des petits montants, et puis en même temps, des gens qui veulent investir sur du plutôt long terme, moyen terme, qui ont besoin, par exemple, d'une enveloppe comme un PEA, un PEA-PME,
oui.
parce que c'est avantageux aussi, honnêtement, très intéressant fiscalement. Et si vous avez un horizon de temps à 20 ou 25 ans, vous n'allez pas investir sur des produits qui sont des produits quelque part risqués ou des produits qui ne sont pas exactement l'action. Ce que voulez-vous, c'est être propriétaire.
Vous me faites plaisir quand vous me dites que je suis encore jeune. On va prendre quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que moi, qui est avec nous en ligne, Darius Bakhtari. Bonsoir.
Oui, bonsoir à tous.
Vous
et
êtes
à tous.
Étudiant, vous avez 20 ans, vous êtes à Sciences Po et vous êtes passionné par l'investissement en bourse. Et vous avez, je crois, également une chaîne YouTube, justement, à votre nom sur l'investissement. Donc, vous faites partie de ces jeunes, pas néophytes pour le coup, qui sont vraiment passionnés par la bourse. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans le fait de jouer au trader ?
Alors, je suis quelqu'un de nature curieuse et en fait, ce que j'apprécie le plus dans l'investissement plutôt que dans le trading, c'est vraiment la recherche d'entreprises à fort potentiel et donc toute cette démarche de recherche.
Donc, c'est plutôt du long terme. Hein.
Oui, dans mon cas, c'est plus du long terme, oui.
Et qu'est-ce qui vous plaît et quels sont les secteurs d'activité ou les entreprises sur lesquelles vous misez ?
Alors, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment cette recherche d'action qui me stimule. Et les secteurs finalement que je vais viser en priorité, c'est vraiment les secteurs d'avenir qui vont pouvoir à long terme délivrer le meilleur potentiel. Alors, on a ce qu'on appelle les méga trends, à savoir tout ce qui va être digitalisation de l'économie, la mobilité autonome, la cybersécurité, l'e-sport. Bref, autant d'enjeux finalement qui représentent le monde de demain dans lequel on pourrait, dans un futur plus ou moins lointain, évoluer.
Bon, et vous arrivez à gagner des petites fortunes avec ça ?
Alors, ça reste relatif. Je préfère généralement raisonner en valeur relative plutôt qu'en valeur absolue, donc en pourcentage. Mais bon, sur l'année 2020, qui a quand même été assez volatile, oui, je suis autour de 35-40%, donc ça reste quand même des bonnes performances. Même si je doute de pouvoir les répliquer,
bien, là, alors, comme je l'ai dit. Il y a tous mes invités en studio là, qui lèvent les pouces et qui disent...
Qui voudrait applaudir.
Qui voudrait applaudir. Voilà, vous entendez le patron de Boursorama qui est à mes côtés. Merci Darius Bakhtari d'avoir été ce soir l'invité d'Europe Soir pour ce témoignage. Maxime Marcon, vous êtes porte-parole de Meilleure Plateforme. 35%, c'est pas mal.
Ouais, c'est une belle performance. Alors, il ne faut pas perdre en vue que cette personne-là, elle est renseignée, elle y passe certainement un peu de temps, ça l'attire et elle peut connaître des déconvenus. Donc, il faut toujours avoir un horizon
comme
de placement.
Quelqu'un comme moi qui n'y connaît pas grand-chose, ou j'investis dans quoi et comment je commence ?
Moi, je pense que si on souhaite investir en actions, il faut répondre à plusieurs critères. Déjà, il faut de l'argent pour, et ça veut dire de l'argent dont je n'aurai pas besoin dans les prochaines années. Il faut avoir le temps.
Il faut partir du principe que c'est de l'argent perdu, même, on m'a dit.
Ouais, quasiment, ouais. Quasiment. Alors, bon, même
non.
Si, a priori...
Pourquoi alors, parce que si vous commencez à dire que vous allez perdre votre argent, non, c'est pas la peine de l'investir. Et en plus,
faut pas investir son PEA, c'est ce que je veux dire.
Non, mais le PEA, c'est justement vous l'investissez.
Ses économies pour la résidence principale. Ouais. Ouais. Pardon.
Oui, non, bien sûr. Mais non, il faut se dire que c'est un investissement audacieux. Je ne parle pas d'investissement à risque, je parle d'un investissement audacieux. Parce qu'au moins, à un moment ou à un autre, il faut être positif. Et quand on regarde sur le long terme, et je rejoins là M. Grisoni, c'est que le CAC 40, en 20 ans, le rendement est de 7% de dividendes réinvestis.
Oui.
Donc 7%, vous, le livret A est à 0,75.
Mais Maxime Marcon, pour poursuivre, le CAC 40, ça fait un peu investissement à la papa, non ? Si moi je veux me lancer, que j'ai entre 30 et 40 ans,
en fait, si je ne veux pas y passer trop de temps, et alors bon, déjà on peut se faire accompagner, et sinon on peut prendre après, au-delà d'aller sélectionner mon portefeuille d'actions parce que je n'ai pas envie, je n'ai pas le temps, et que ça ne me passionne pas plus que ça, j'ai d'autres solutions qui me permettent d'investir sur les marchés actions, comme les trackers, comme des fonds. Je peux faire confiance à un gérant au travers de PEA ou de contrat d'assurance vie, mais pas forcément de gérer mon portefeuille.
On perd l'aspect ludique qui est qui visiblement séduit les jeunes.
Alors, je
ne
sais pas
jeunes.
S'il faut que le premier aspect soit ludique dans un investissement où je mets quand même mon argent et mes économies. Mais effectivement,
c'est vraiment la dichotomie entre les deux. Il y a le trading d'un côté, et ça a été très bien dit par Darius, des gens qui plutôt sont sur des très courts termes et qui veulent vraiment peut-être l'appât du gain dont vous parliez tout à l'heure. Et puis, il y a l'investissement, ce qui n'a rien à voir. Et ce n'est pas du tout incompatible.
Qui mettent d'ailleurs des seuils de vente.
Voilà, vous mettez des seuils, vous faites du programmé, vous pouvez mettre 100 euros tous les mois. Si vous faites ça pendant 20 ans en moyenne, vous arriverez à 60 000 euros à la fin.
C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas à ce qu'on fait, on s'intéresse à l'évolution de la courbe, à la journée.
Pratiquement, c'est ça. Et si vous regardez juste peut-être pour relativiser les performances, nous, on a quand même 500 000 comptes titres et PEA. Sur les PEA, c'est plus de 8% l'année dernière en moyenne qu'ont gagné nos clients.
Oui.
Ça, c'est la vraie performance de tous nos clients cumulés. Et c'est 5,50 sur les comptes titres ordinaires. Donc, vous voyez, c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux. Alors, c'est sur une année, il faudrait l'avoir sur plus de temps, mais c'est juste pour illustrer le fait que, bon, 35 ou 40%, c'est incroyable.
Le bon investissement pour commencer, quand on n'est pas un pro, c'est combien?
Ouais, je pense qu'il faut... Il y a des 1000 euros, honnêtement.
Des 1000 euros, ça
vaut le
coup.
Ouais, des 1000 euros, ça peut avoir le coup. Ce qui compte, c'est aussi de faire du programmé. Il faut vraiment avoir ça en tête. Si tous les mois, vous mettez un peu, c'est comme le crédit immobilier. Oui. Pourquoi est-ce que vous allez vous privilégier l'immobilier? Parce que tous les mois, vous allez faire un effort d'épargne.
Donc, on met un peu sur le livret A, puis on met un peu sur le compte...
Oui, et un peu là-dessus, et vous faites de l'immobilier, évidemment. Enfin, c'est un tout, quoi.
19h40, on se retrouve dans quelques secondes avec encore un témoignage. Et puis on continue, évidemment, d'en parler avec nos invités. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et dans le Club des idées, le débat, on continue de parler des jeunes et de leur rapport à la bourse. Les chiffres montrent qu'ils ont un intérêt grandissant, notamment grâce à des nouveaux systèmes d'investissement. On en a parlé tout à l'heure des applications, mais pas que, aussi le canal classique pour investir sur les marchés financiers. J'ai une question à vous poser, Charles-Henri Dovigny. Vous êtes président de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Est-ce qu'il y a aussi, de la part des jeunes, quand ils investissent, une quête de sens, épargner utile, investir par exemple dans des fonds verts, défendre des entreprises responsables, des projets qui valorisent des transitions écolo? Est-ce que ça aussi, ça change un peu par rapport à leurs aînés?
Alors, je dirais que cette proportion, elle est équivalente chez l'ensemble des investisseurs, qu'ils soient plutôt vieux ou plutôt jeunes, et autre chose. Mais c'est vrai que chez les jeunes, ils cherchent des entreprises dans lesquelles ils ont un intérêt fort. Nous, quand on fait les palmes d'or des jeunes actionnaires avec l'EDEC, on s'aperçoit que les entreprises qui sont choisies par ces jeunes, bah, ce n'est pas forcément que des boîtes qui sont en haut du panier du CAC 40.
Vous avez des exemples?
Du Capgemini, par exemple.
Capgemini, oui.
On a aussi du Danone, on a du Thales, on a... Donc, c'est du Dassault Systèmes. Aussi des boîtes industrielles qui réussissent à développer quelque chose d'intéressant pour eux et pour le pays. Voilà. Et ça, c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu. Et l'enjeu aussi du gouvernement, c'est de mettre en place aussi ce label relance dans les fonds qui donnera aussi à certains d'entre eux des indications pour investir.
Une question parenthèse, Maxime Marcon, porte-parole de Meilleur Placement. Est-ce que les investissements dans les crypto-monnaies chez les jeunes, ça suscite un engouement particulier? Le Bitcoin, évidemment, par exemple, parce que là, le taux de rendement, si on l'achète au bon moment et qu'on vend au bon moment, on peut gagner beaucoup d'argent en peu de temps.
Il ne faut pas oublier que ce n'est pas un rendement, du coup. Ça ne délivre rien, le Bitcoin.
Non.
Mais quand on l'achète, on aspire à une plus-value.
À plus de 30 000 dollars aujourd'hui.
Effectivement, il y a eu un engouement fort. Alors, ce qui peut être caractérisé un peu comme une bulle, et il y a certaines valeurs d'ailleurs qui en sont l'exemple type. Si je prends Tesla, c'est pareil, on a vraiment connu un engouement très fort. Certaines plateformes et certains forums...
Je suis
forums...
pas sûr qu'on peut parler de bulle autour de Tesla quand même, parce qu'il y a une réalité économique derrière. Même si l'entreprise est valorisée plus que ce qu'elle vaut en réalité...
Si on regarde les comparables et qu'on matérialise la valorisation par rapport au nombre de voitures vendues,
on sait que le business model va au-delà du nombre de voitures vendues.
Mais en fait, ce qui peut caractériser aussi la bulle, c'est la forte volatilité. Quand un titre perd 40% en un mois, c'est que la valorisation d'il y a un mois était peut-être un peu exagérée.
Oui, mais on sait que Tesla dans 40 ans sera toujours là. Je ne suis pas sûr que... Bon, on parle d'autre chose, parce qu'il ne faut pas prendre de pari non plus. Sur l'avenir. Benoît Grisoni, PDG de Boursorama, quel est votre regard, vous, c'est la même question que je posais tout à l'heure, sur cette quête de sens, épargner utile, c'est une considération que vous observez, vous, chez les jeunes?
Nous, on la voit à plusieurs niveaux. On la voit sur le fait que sur les fonds qui sont labellisés, donc ça peut être des fonds ISR, c'est-à-dire avec un sens sur la question énergétique, on sent qu'il y a des questions qu'on n'avait absolument pas il y a 3-4 ans. Il y a aussi un marché qui commence à s'organiser objectivement, c'est-à-dire qu'il y a des fonds maintenant, il y a des labels qui existent. Et je pense que c'est vrai que les jeunes, ont quand même un petit peu plus quelque part cette conscience-là, je pense. Et après, les produits aussi qu'on met en place, nous, par exemple, dans l'assurance vie, on a des mandats de gestion pilotée qui sont strictement ISR, parce qu'on a bien, on l'a fait, évidemment, parce qu'on pense que ça a du sens, mais aussi parce que, tout simplement, nos clients nous le demandent. Hein. Enfin, donc, il y a, je pense, une organisation du marché qui est en train de se faire. Après, il va falloir qu'on soit certain, par contre, que les terminologies qu'on emploie, la sélection des produits qu'on met en face de, finalement, ces labels, soit parfaitement claire pour tout le monde. Parce qu'évidemment, la question d'après, c'est quand je n'ai pas le label, pourquoi je ne l'ai pas ? Et qu'on soit sûr, finalement, de la pertinence des critères qui amènent à ce qu'on soit labellisé quand on est un produit financier.
Alors, on est en ligne avec Étienne Monceau, cofondateur de Sans Cravate, qui est un site internet et chaîne YouTube qui promeut l'éducation financière en France, étudiant en quatrième année d'école d'ingénieur. Bonsoir.
Bonsoir.
D'où vous vient, vous, cette passion pour la bourse et les marchés financiers ?
Eh bien, à la base, elle me vient tout simplement de la relation en fait entre les mathématiques et l'informatique. Donc, ouais. Je pensais naturellement que voilà, les marchés financiers, j'y trouverais une passion. Donc, je m'étais intéressé principalement au début à regarder les graphiques, l'évolution du cours des actions, etc. Et puis, finalement, avec le temps, j'ai commencé à regarder plutôt les éléments financiers qui permettent de déterminer la valeur, finalement, d'une entreprise, oui. Et pourquoi elle est valorisée comme ça en bourse. Et puis, je suis tombé voilà, complètement amoureux
donc,
des chiffres et plutôt de l'aspect comptable.
L'outil industriel qui est derrière une entreprise.
Alors, voilà, c'est les éléments financiers, c'est-à-dire tout simplement savoir lire et comprendre un compte de résultat, un bilan, la manière dont une entreprise se finance, ce qu'elle vend, etc. etc. Et ça, j'ai trouvé ça plus rapidement plus intéressant que finalement les graphiques pour vraiment avoir derrière des convictions dans les investissements que je faisais pour essayer de donner une valeur aux actions dans lesquelles j'investissais, tout simplement.
C'est intéressant, Maxime Marcon, porte-parole de Meilleur Placement, parce que je reviens toujours à ma question de quête de sens. C'est quand même un élément qui revient beaucoup. Alors, pas simplement dans les placements écolos ou les fonds d'investissement qui valorisent des projets écologiques, mais quand même, aujourd'hui, on a besoin de se raccrocher à des entreprises qui créent de la valeur. Et pas simplement
de la valeur que j'utilise au quotidien.
De la spéculation comme ça, simplement pour gagner
de l'argent
sans valeur réelle.
Il faudra voir dans le temps si ces nouveaux entrants de on va dire confinement vont rester dans cette thématique-là, vont rester investis et auront cette pensée-là sur l'actionnariat. Mais effectivement, c'est je veux investir dans quelque chose d'utile, je veux investir dans des produits que je comprends et des produits que j'utilise.
Charles-Henri Dovini.
Oui, mais pour prolonger la discussion, nous, on reçoit quand même un certain nombre de coups de fil tous les jours et on a beaucoup de jeunes qui veulent investir. Et surtout, ceux qui ont déjà investi nous posent à ce moment pas mal de questions sur comment je peux voter aux AG, comment je peux participer aux AG qui vont venir, parce qu'on a eu les résultats, la saison des AG va commencer au mois d'avril, et donc comment je peux donner mon opinion sur la stratégie de l'entreprise.
Un petit poids,
pour avoir un poids dans les décisions, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à un moment ou à un autre, on est propriétaire des actions, on n'est pas propriétaire de l'entreprise, on est propriétaire des actions qui vont pouvoir, à ce moment-là, nous, actionnaires, dire ce que l'on pense du management. Donc, là, il y a un truc qui est quand même assez caractéristique, c'est que là, actuellement, vous avez, et on en parle, vous avez plusieurs batailles boursières. Vous avez Veolia contre Suez, vous avez eu Danone la semaine dernière, vous avez eu Unibail Rodamco, vous avez eu d'autres batailles. Par exemple, Carrefour Couche-Tard et autre chose. Et on a, là-dessus, la fédération a pris une position assez ferme vis-à-vis du gouvernement, en tous les cas de Bruno Le Maire. Quand il a dit à un moment ou à un autre, Suez ne doit pas aller chez Veolia ou Veolia.
Il y a des enjeux industriels qui dépassent le simple
terme de l'actionnariat. Non, mais c'est à ce moment-là que le débat se fasse. Mais pourquoi partir du principe que l'actionnaire de Suez va, quoi qu'il arrive, vendre à Veolia ? L'actionnaire de Suez, il peut rester actionnaire de Suez.
Bien. Un dernier petit conseil, Benoît Grisoni. Dans quoi faut investir en ce moment ?
Je pense que pour revenir au sens, parce qu'on a commencé par la gamification et on termine finalement par se rappeler une chose, c'est que la bourse, c'est financer les entreprises. C'est aussi une question de souveraineté. Donc si quelque part
prendre
nos jeunes...
financer l'investissement.
Bien sûr. Et quand on a 35 ans devant soi, si en fait l'argent des Français, qui reste quand même encore très majoritairement aujourd'hui placé sur des choses en effet qui n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt pour l'ensemble de l'économie et finalement de la collectivité, je pense que le bon placement, c'est de faire des choses programmées le plus tôt possible, et dans des entreprises, je suis complètement d'accord, qu'on comprend, dont on comprend le rationnel. Bien. Et ça créera des emplois, et c'est quelque part une question
bonne
de souveraineté.
Conclusion, très bonne conclusion à ce débat. Merci à tous les
merci,
trois.
Merci beaucoup.
Merci à nos invités, à nos témoins auditeurs d'avoir participé à ce débat sur les jeunes et la bourse.